On va vous présenter un livre qui s'appelle Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui. C'est un livre d'un historien français qui s'appelle Johan Chapoutot et qui nous a paru assez intéressant. Dans un premier temps, on va d'abord résumer le livre rapidement en insistant sur les éléments qui nous ont paru intéressants. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer d'expliquer pourquoi ça nous a semblé intéressant, pas seulement pour la connaissance qu'on a de l'histoire, mais aussi pour poser des questions politiques aujourd'hui. Si vous voulez un résumé plus développé que celui qu'on va faire, on a mis en ligne sur le site du Silure, donc silure-ge.net, sur la page événements, on a mis en ligne un article de Johan Chapoutot qui explique son projet, qui le résume. Et puis on a mis également en lien un entretien qui dure une heure avec Johan Chapoutot pour un magazine en ligne qui s'appelle Hors Série. Et on passera tout à l'heure des extraits de cet entretien. Donc Johan Chapoutot, c'est un historien français qui est spécialiste de l'histoire culturelle du nazisme. Ça veut dire qu'il s'est intéressé dans ses autres livres aux aspects culturels du nazisme, donc, comme par exemple la question de savoir quelles étaient les bases philosophiques ou juridiques du nazisme et comment elles ont été mises en œuvre pour donner une base idéologique au régime. Libre d'obéir est un livre assez court, il fait une centaine de pages au format poche et il est vraiment facile à lire. Il suit un plan chronologique qui permet de bien se repérer dans les deux périodes abordées, c'est-à-dire le Troisième Reich et puis l'après-guerre allemand.
Dans Libre d'obéir, Chapoutot suit la biographie d'un juriste nazi qui s'appelle Reinhard Höhn, 1904-2000. Reinhard Höhn est un intellectuel, un professeur de droit public. Il a le grade de général, mais il n'est pas pour autant un militaire, et il est membre du Sicherheitsdienst SD, qui est le service de renseignement et de maintien de l'ordre de la SS. C'est donc une huile, un personnage important du régime. Reinhard Höhn, en tant que juriste, a reçu la mission de réfléchir à la nouvelle forme que devrait prendre l'État dans le contexte d'un empire en pleine extension territoriale. Comment fallait-il gouverner ce nouvel empire? Quels devaient être les tâches attribuées à l'État? C'est le genre de questions auxquelles Höhn est chargé de répondre. La réponse pour Höhn est très claire. L'État, dans la forme qu'il avait avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, est tout entier à rejeter. Höhn, en somme, veut-on finir avec l'État, c'est le titre du deuxième chapitre du livre. Dans un article de droit public, Höhn écrit par exemple
« L'État n'est plus l'entité politique suprême. Il est bien plutôt limité à la réalisation de missions qui lui sont attribuées par l'instance de direction, Führung, au service de la communauté du peuple. Dans ce sens, il n'est plus qu'un simple moyen que l'on engage et qui se voit assigner ses objectifs et son action. »
On voit que Reinhard Höhn se prononce en faveur d'un État au rôle très limité. Pour lui, l'État n'est qu'un outil au service d'une entité plus élevée, la communauté du peuple. Cette communauté, c'est le socle de la pensée nazie. Elle est donnée comme une évidence, indissociablement biologique et historique. C'est la race aryenne, l'idée de germanité, etc.
Les nazis réfutent et répudient la notion de société.
Johan Chapoutot, entretien avec Laura Rahim, sur le site or-série.net.
La société, c'est-à-dire ce groupement d'êtres libres qui se regroupent sur le fondement de leur liberté et de leur volonté, ça c'est la société à la Rousseau, du contrat social qu'ils refusent absolument, c'est la Révolution française. Eux, ce qu'ils veulent, c'est non pas la société, mais la communauté organique, héritée de la tradition historique, et une communauté qui est enracinée dans la biologie et dans la race. Autrement dit, je ne décide pas d'être allemand, je le suis de naissance, et je n'ai pas le choix, et c'est comme ça. Pour refonder cette communauté-là, il faut opérer un bond en arrière, une révolution au sens pré-révolutionnaire du terme, revenir à l'avant-révolution française, et revenir à la communauté organique, biologique des origines, c'est-à-dire ces germains des forêts, qui se gouvernent eux-mêmes, qui élisent eux-mêmes leur chef, et qui n'ont pas besoin ni d'État, ni de loi, ni de décalogue, ni de deutéronome pour se gouverner.
Ce que Reinhard Höhn propose à la place de l'État, ce sont des agences, c'est-à-dire des outils ponctuels qui doivent remplir une tâche spécifique avec des moyens limités. Et c'est ça qui va se développer sous le Troisième Reich. C'est la constitution d'un nombre incalculable d'organismes, d'entités qui viennent redoubler les tâches de l'État pour, soi-disant, les accomplir mieux, avec un esprit plus proche de celui du Führer. Chapoutot écrit à ce sujet
« L'État est concurrencé par une myriade d'administrations ad hoc qui ont le statut de ce que l'on appelle des agences, c'est-à-dire des organes dotés d'une mission, d'un projet et d'un budget pour remplir cette mission, et dont l'existence est limitée au temps de cette tâche.
Cette idée de fonctionner par objectif, par mission, Reinhard Höhn va la développer dans de nombreux domaines. Le domaine militaire, par exemple, où il va proposer de commander non plus en précisant les buts et les moyens d'y parvenir, mais en laissant au libre arbitre des officiers subalternes le choix des moyens pour atteindre les objectifs que les officiers supérieurs leur fixent. À première vue, c'est très autogestionnaire comme idée, mais bien sûr, le succès de la mission est exigé et les subalternes ne choisissent jamais les objectifs. En fait, cette méthode de commandement est surtout une manière pour les officiers supérieurs de ne pas se préoccuper de savoir si les moyens nécessaires au succès existent ou non. Chapoutot écrit.
L'officier de terrain, comme le cadre, ne participe en rien à la définition de l'objectif, car celui-ci lui est assigné dans les limites d'une tâche à remplir. Il ne lui appartient pas de décider qu'il faut prendre telle colline ou atteindre tel point, ou de répudier cet objectif comme parfaitement absurde. Son unique liberté est de trouver, par lui-même, de manière autonome, la façon de la prendre ou de l'atteindre. Il est donc libre d'obéir.
Cette méthode que Reinhard Höhn met au point dans ses écrits sur l'État, elle sert bien sûr un objectif essentiel pour le Troisième Reich, qui est de faire toujours plus avec toujours moins. En effet, entre 1939 et 1945, ce ne sont pas moins de 18 millions d'hommes qui sont mobilisés pour l'effort de guerre nazi. Dans le même temps, le territoire du Reich ne cesse de s'étendre. On se doute alors que dans ces conditions, l'administration doit faire en sorte de ne plus se poser la question de savoir comment elle peut remplir ses missions. Elle doit les remplir, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression à la mode. On pourrait penser que la carrière de Reinhard Höhn se brise avec la défaite allemande de 1945 et le procès de Nuremberg où sont jugés les anciens dignitaires nazis. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'intérêt du livre de Chapoutot de montrer cette continuité. Donc Chapoutot, il continue à suivre le parcours de Reinhard Höhn après la guerre. Tout de suite après la guerre, Höhn devient discret, il change de nom et ouvre un cabinet d'acupuncture et d'homéopathie. Et puis, assez rapidement, il est pris en charge par des réseaux de solidarité entre anciens membres du Sicherheitsdienst.
Reinhard Höhn n'est pas du tout le seul à bénéficier de cette solidarité entre anciens nazis. Un personnage plus connu, emblématique de ce recyclage d'après-guerre, est Hans-Martin Schleyer, qui a occupé de hautes fonctions sous le Troisième Reich. Il a en effet assuré la direction économique des territoires occupés, et il est en particulier responsable de la politique d'extermination en Tchécoslovaquie occupée. Or, dès 1951, Schleyer fait carrière chez Daimler-Benz jusqu'à accéder au conseil d'administration. Il est ensuite le patron des patrons allemands. En 1977, il est enlevé et exécuté par la Rote Armee Fraktion. Ces réseaux de solidarité entre anciens nazis sont ainsi très puissants, y compris en Allemagne. Ils permettent à Reinhard Höhn, dès 1953, de se trouver à la tête de la Société allemande d'économie politique, Deutsche Volkswirtschaftliche Gesellschaft, DVG, qui est une espèce de think tank. Chapoutot explique.
Cette association vise, dans le contexte de haute croissance, à favoriser les méthodes de management les plus efficaces. Pour, citation, développer et enseigner les formes de gestion des ressources humaines les plus adaptées à notre temps, fin de la citation, la DVG décide de créer une école de commerce pour les cadres de l'économie. Il s'agit de former des managers à l'américaine, des leaders polyvalents. En 1956, la DVG inaugure fièrement un campus dans la charmante et pittoresque ville de Bad Harzburg, logée sur les contreforts du Harz, en Basse-Saxe. C'est l'Académie des cadres, Académie für Führungskräfte de Bad Harzburg, créée et dirigée par celui qui, 11 ans auparavant, était encore le SS-Oberführer professeur Reinhard Höhn. L'école accueille, jusqu'à la mort de son fondateur en l'an 2000, quelques 600 000 cadres issus des principales sociétés allemandes, sans compter les 100 000 inscrits en formation à distance.
Thank you.
Bien entendu, Reinhard Höhn reprend pour l'essentiel les méthodes qu'il a élaborées sous le régime nazi, en particulier cette notion de management par objectif, qui consiste donc à attribuer des objectifs sans égard aux moyens, sera au cœur de la méthode de Bad Harzburg, donc la méthode qu'il élabore dans cette ville qui accueille l'Académie des cadres. On le voit avec les chiffres donnés par Chapoutot, 600 000 cadres formés en 50 ans. Ça n'a pas été une institution marginale ou un repère de nostalgiques du Reich, mais une institution centrale pour la production de managers au service des fleurons de l'économie ouest-allemande d'après-guerre, comme BMW, Opel, Bayer, Aldi, mais aussi la nouvelle armée fédérale.
Comme on l'a dit au début, le livre de Chapoutot est un essai historique, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un livre qui vise à augmenter la connaissance du passé. Il vise explicitement, mais habilement, à dire quelque chose sur le présent. Chapoutot ne le dit jamais nettement, mais ça semble tout de même être un pamphlet contre Macron. Les pages que Chapoutot consacre au travail théorique de dévalorisation de l'État dans les écrits juridiques nazis résonnent avec le travail de dévalorisation de l'État mené par les idéologues de la République en marche. Par exemple, ces lignes sur l'opposition mouvement-parti qui est importante dans le langage macroniste.
L'État, en pratique, apparaît en recul, comme menacé par une profusion d'institutions et d'organismes ad hoc, et avant tout, par le parti lui-même. Au terme de parti, la langue nazie préfère d'ailleurs celui de mouvement. Le mouvement épouse la dynamique de la vie et de l'histoire, tandis que l'État ne peut accompagner le flux des initiatives et des décisions à prendre, et, au pire, les entrave.
Alors non, notre mouvement n'est pas en déshérence.
Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, discours du 1er décembre 2018.
Mais oui, il n'est pas devenu un parti. Parce que nous voulons rester un mouvement. Quelle est la différence ? La différence, c'est que les élections, pour nous, ce n'est pas une fin, mais c'est un moyen pour transformer le pays. La différence, c'est que nous ne croyons pas que la politique, ça soit l'affaire des élus, mais nous croyons profondément que la politique, c'est l'affaire de tous, des citoyens et des citoyennes, et qu'elle nous concerne tous et toutes, chacun dans notre vie, dans toutes les dimensions de notre vie.
À partir de cette notion de mouvement, on peut dérouler tout le vocabulaire de la mobilisation, de l'engagement au-delà des limites, de l'intensité qui permet le nécessaire changement, etc. C'est tout le langage déployé par Macron en politique, mais aussi depuis longtemps, par le management dans les entreprises. C'est le vocabulaire et l'état d'esprit qui relient idéologiquement toutes les nuances du néolibéralisme. Pour certains commentateurs, on pourrait encore distinguer Macron de Trump ou Bolsonaro, mais si on écoute le langage que pratiquent les uns et les autres, les distances sont, à vrai dire, assez ténues. Et ce langage, c'est aussi celui du mensonge ou de l'inversion. Comme on l'a vu, dans « libre d'obéir », il y a surtout « obéir ». La liberté du management par objectif est une fausse liberté. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on nous assigne des objectifs qui sont impossibles à tenir ? L'autonomie des subalternes quant au choix des moyens est une fausse autonomie, puisque les buts ne sont pas définis en commun.
Mais attention, Chapoutot ne dit pas que Macron est un nazi. Il ne dit pas non plus que le management, c'est mal par essence parce qu'il a été inventé par les nazis. D'abord, c'est faux, le management apparaît en de multiples endroits et pas seulement dans la tête de Reinhard Höhn, qui d'ailleurs ne l'invente pas. Ensuite, c'est beaucoup plus intéressant que ça.
Encore une fois, lorsque l'on voit ce qui constitue, on va dire, l'épistémé, ou la culture, ou la norme, la culture normative nazie.
Johann Chapoutot, entretien avec Laura Rahim, sur le site or-série.net.
On voit des composantes qui ne sont pas nazies. Le darwinisme social, c'est pas nazi. L'eugénisme non plus, le racisme non plus, l'antisémitisme non plus, le capitalisme non plus, l'impérialisme non plus, et j'en passe, et des meilleurs. Montrer cela et dire cela, c'est peut-être faire œuvre d'historien, au fond, et dire, attention, les mythes, c'est bien. La dénazification, la radicale étrangeté du phénomène nazi qui est apparu en 1933 et qui a disparu, comme ça, en 1945. Les mythes, c'est sympathique, mais au-delà de ça, on peut essayer de réfléchir et de voir que, lorsque on considère les gens comme du matériel humain, c'est le terme qu'employait le nazi, « Menschen matériel », c'est un mot qui nous choque, matériel humain, mais au fond, ressources humaines, qui est maintenant totalement accepté partout, c'est une expression atroce quand on y songe. La ressource, c'est quelque chose de matériel, de quantifiable et de gérable. On parle de gestion maintenant à tout point de vue et de même de gestion des ressources humaines. Moi, je trouve ça atroce.
Oui, mais ça ne vient pas de là, directement, pour le coup. Non. Ça, c'est juste que ça fait écho.
Non, bien sûr. Ouais. Mais ce n'est pas que ça fait, pas seulement. C'est que les nazis ont, comment dire, mis en œuvre ces idées-là et ont déployé les de manière paroxystique les potentialités les plus dévastatrices de notre histoire, de l'histoire de ce temps et de ce lieu que nous habitons. Et ça, je trouve que ça a le mérite de... ça mérite d'être pensé plutôt que d'évacuer la question nazie en disant oh, « c'est pas nous, c'est pas moi, c'était des teutons, ou c'était des fous, ou ils étaient possédés par le démon », vous voyez. Il me semble, ce que je constate, si vous voulez, lorsque l'on voit la réception de certains travaux, là, je ne parle pas uniquement des miens, mais travaux de certains collègues aussi, on voit qu'on a du mal à penser ce phénomène. Parce qu'il est tellement atroce, si vous voulez, que... Mais, sauf que... Cette atrocité-là s'inscrit dans une culture, dans un temps et dans un lieu qui sont les nôtres.
Relève Chapouton en conclusion, c'est que ce vocabulaire et ces méthodes vitalistes, libérer les énergies, et viriles sont aujourd'hui parfaitement généralisés parce qu'ils sont parfaitement adaptés à notre régime économique ultra-productiviste. Il faut, et c'est le dernier point que nous voudrions mettre en avant, se méfier de cette généralisation car il arrive aussi qu'elle passe pour nous. Tout le vocabulaire de la mobilisation, de l'évidence, de la communauté, de l'informalité due à la lutte en cours, de l'intensité de l'engagement pour atteindre les objectifs, est aussi le vocabulaire militant par excellence.
Bien sûr, cela doit être nuancé. On peut distinguer les appels à la mobilisation entre eux en fonction de leur but, des objectifs qu'ils s'assignent et de la manière d'assigner ces objectifs. Il ne s'agit pas de condamner en bloc tous les discours qui visent à mobiliser collectivement des gens que tout concourt à maintenir repliés dans des alvéoles individuelles. Mais cette proximité des langages doit tout de même interroger. Alors, ce livre, le livre de Chapouteau, pourrait aussi être un livre utile à nos réflexions sur l'organisation. Il nous force en effet à nous demander quel est notre rapport à l'efficacité dans un contexte où la réussite d'une action ou d'un projet est impossible, par exemple. Il nous permet d'interroger le contenu réel de mots qui nous sont chers, comme liberté et autonomie. Et enfin, il ouvre, à notre avis, le questionnement suivant. Si le langage de l'intensité, de la mobilisation collective est devenu celui de l'ennemi, est-ce que nous devons pour autant nous replier sur celui de l'individu et du laisser-faire ?